Seigneur Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous élevons vers toi nos voix pour t'adorer, pour t'exalter, mais aussi et surtout pour demander le secours de ton Esprit Saint en ce moment où nous voulons entrer à ton école. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit nous aide à comprendre le message que tu destines à chacune et à chacun d'entre nous, et que nous puissions vivre chaque jour en tenant compte, afin que notre vie soit pour toi une odeur, une offrande et un parfum de bonne odeur. Parle, Seigneur, car tes servantes et tes serviteurs sont prêts à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés, bonjour. Notre première lecture va se faire dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 4 à 19. Jérémie 1, 4 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen.
Le deuxième texte, 1 Corinthiens 12, verset 31 et 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 à 13.
Corinthiens chapitre 12, Verset 30 à 13, verset 13.
Bon, on s'excuse pour ce qui est écrit au mur là. Corinthiens chapitre 12, verset 31 jusqu'au chapitre 13 de 1 Corinthiens 13. Nous le lisons. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophètes prendront fin. Les prophéties, pardon, prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Dernier texte, Luc chapitre 4, 21 à 30. Luc chapitre 4, les versets 21 à 30. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture. Ok. Bien, le pasteur rectifie, on commence à partir du verset 14. Luc chapitre 4. Du verset 14 à 30. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant ouvert, déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen.
il a grandi, chez ses parents, et là-bas, il s'est rendu à Nazareth, où il a commencé son ministère. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il prêche, il enseigne, il guérit et chasse les démons. Bien sûr, il prêche partout. Il prêche dans toutes les synagogues qu'il visite. Mais c'est surtout dans la synagogue. Il prêche partout, je veux dire, mais c'est surtout dans la synagogue qu'il enseigne. La synagogue est, à l'époque du Nouveau Testament, le lieu de réunion où on se rencontre pour le culte, pour l'enseignement, l'adoration, la prière. Et même aujourd'hui, on peut encore rencontrer des Juifs se regroupant dans les synagogues. Partout où il y a une famille de 10 personnes au moins, on trouve une synagogue, même en terre païenne. À Nazareth, la ville natale, la ville d'enfance de notre Seigneur, il commence donc sa mission. Il commence sa mission parmi les siens, parmi ceux qui l'ont vu grandir jusqu'à sa 30e année. Dans cette ville, sa première action se situe dans la synagogue où il avait eu la pieuse habitude d'aller dans sa jeunesse. Il fait donc le culte dans la synagogue le jour du sabbat. À l'époque, lorsque l'étranger visitait la synagogue, le président, celui qui présidait la rencontre, lui donnait le parchemin. Et ce visiteur devait faire la lecture du jour. On avait donc le plaisir à écouter l'étranger. Dans le parchemin, on faisait la lecture de la loi et une autre lecture concernant les prophètes. On remit donc à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Lorsqu'il le déroula, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On pourrait encore dire une année de jubilé. Il cite ainsi le texte d'Ésaïe 61, versets 1 à 2. Et ce texte est pour Jésus le programme de sa mission. C'est à partir de ces déclarations que le Seigneur Jésus va agir. Après la lecture, il s'assit Et tous les regards sont braqués sur lui comme des projecteurs. Alors il dit à tous, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Les auditeurs de Jésus étaient donc des privilégiés. Ils étaient en train de vivre l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qu'ils connaissaient très bien pour avoir lu et relu. Oui, l'heure du salut attendu était enfin là. Le Messie était présent devant eux en chair et en os. Il est venu accomplir une œuvre magnifique qu'on peut décliner en six termes. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ces pauvres sont des démunis sur le plan matériel. Mais ce sont aussi les humbles, les débonnaires. Jésus est venu pour leur proclamer, pour leur annoncer le relèvement, la consolation, la promesse de l'offre de la richesse de sa grâce. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Après avoir entendu Jésus, la réaction de ses auditeurs fut d'abord à l'étonnement. Les auditeurs étaient étonnés à l'écoute de ce programme et ils étaient farouches. Au lieu de l'admirer, ils sont plutôt devenus farouches. Pourquoi farouches? Parce que pour eux, c'était une prétention de la part de Jésus que de se présenter devant eux de cette façon. Jésus remarqua immédiatement dans leur attitude de l'incrédulité. Ils auraient préféré voir Jésus accomplir les miracles qu'il a accomplis à Capernaum pour leur prouver ce qu'il dit, que ce qu'il dit est vrai. Ils voulaient voir le médecin faire quelques guérisons dans sa patrie, aussi bien qu'à Capernaum. Mais Jésus n'avait pas cette intention. Et il s'est contenté de leur dire qu'aucun prophète n'est bien reçu chez lui, dans sa patrie. On l'a vu grandir. On connaît ses parents. On connaît les erreurs, ses erreurs et ses faux pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut apporter de bon, cet enfant-là qu'on a vu grandir? En effet, c'est ainsi qu'autrefois les prophètes d'Israïe ont essuyé l'hostilité et l'incrédulité et ont opéré leur miracle plutôt chez les peuples païens. Par ces déclarations, Jésus voulait aussi et indirectement leur faire savoir que de même, l'évangile sera annoncé aux païens. Alors, ils sont remplis de colère. Ils sont remplis de colère. Et ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils cherchent Jésus et ils l'amènent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Leur intention, le précipiter, n'est-ce pas, au fond du précipice. Mais comme Jésus n'avait pas encore accompli sa mission, ils ne pouvaient pas réussir leur coup. Ils ne pouvaient pas l'éliminer physiquement. Ainsi, le frère de la même ville, du quartier, a risqué d'être lynché parce qu'il a dit la vérité qu'on ne voulait pas entendre. La terre sur laquelle nous marchons est le cimetière d'un nombre considérable de martyrs dont on a enlevé la vie, tout simplement parce qu'ils ont dit la vérité. La vérité. La vérité. Cette vérité qui fait mal. Surtout la vérité évangélique, mais aussi les autres. Jérémie, consacré par Dieu avant même sa conception, pour une mission spéciale, et comme Jésus chargé d'une mission. Et comme tel, il n'est pas une fabrication d'un homme, aussi influent soit-il. Il n'est pas non plus le représentant d'un groupe de pression, ou d'un village, ou d'une ethnie. Pour cette raison, il peut librement s'adresser au peuple, sans craindre que ses supporters et ses protecteurs ne se fâchent. Ainsi, la parole de Dieu n'est pas emprisonnée et les termes de la mission sont respectés. Pourtant, la mission du prophète Jérémie était une mission difficile aux vues humaines, mais aussi dans la réalité. La réticence du prophète devant sa tâche le prouve, mais il reçoit de Dieu le courage pour accomplir sa mission. En ce temps de crise, il doit accomplir sa mission. En ce temps où le peuple a abandonné Dieu, Jérémie doit accomplir sa mission. Une autre chose qu'il faut retenir en ce qui concerne la mission de Dieu, la mission que Dieu donne à son serviteur, Jérémie, c'est que cette mission étant d'origine divine, personne n'est suffisant pour cela. Personne n'est à la hauteur, car la consécration et même la formation ne suffisent pas. Il faut le courage. Il faut la direction du Saint-Esprit. Car la mission de Jérémie consiste à détruire afin de reconstruire. Frères et sœurs, il peut arriver qu'à certains moments, un serviteur de Dieu ait à accomplir la même mission que Jérémie. Détruire avant de reconstruire. Détruire les mauvaises habitudes. Détruire la résistance à Dieu. Détruire les pesanteurs. Détruire la médiocrité. Érigée en forme de gouvernement. Raser le laxisme. Et que sais-je encore? Même détruire l'à peu près. On se contente de l'à peu près. On a toujours fait comme ça. Il faut rester sur place. Parce qu'on est à l'aise comme ça. Pourtant, la vie chrétienne ne saurait être une vie du sur place. On doit avancer. Avancez toujours jusqu'à la mort. On doit toujours avancer, quel que soit l'âge. Continuer à rechercher de nouvelles manières de plaire à Dieu, de témoigner de Christ autour de soi. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à Christ afin qu'il nous donne de vivre véritablement la vie chrétienne. Et nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne vraiment digne de ce nom si l'amour manque. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans amour, que l'apôtre Paul appelle la charité. Beaucoup de gens confondent le sentiment à la charité, à l'amour. Le sentiment nous amène à regarder beaucoup plus à nous-mêmes, à rechercher plutôt ce qui va nous faire plaisir, alors que l'amour consiste à regarder vers l'extérieur, à rendre les autres heureux, à donner aux autres de vivre, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions. L'amour, bien sûr, il y a les dons spirituels qui sont donnés, chacun le sien. Mais quant à l'amour, quant à la charité, ce don est donné à tous les chrétiens. Il n'y a donc pas d'excuse à se faire. Nous n'avons pas d'excuse. Chacun doit aimer le prochain. Chacun doit faire tous ses efforts pour mettre en pratique ce commandement des commandements. Car comme vous le savez, tous les commandements se résument en deux seuls commandements. Aimer Dieu et aimer le prochain. Vous pouvez donc vous assurer, si vous n'aimez pas, recommencez votre vie chrétienne. Naissez de nouveau. Parce que vous ne pouvez pas être né de nouveau et refuser d'aimer. Puisque c'est l'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Nous ne pouvons pas nous réclamer de Dieu et refuser d'aimer. Ce n'est pas possible. Alors, si nous n'arrivons pas, nous devons donc recommencer, réviser notre vie chrétienne. Nous devons recommencer à zéro pour être véritablement celui que Dieu veut, celui ou celle que Dieu veut, celui ou celle qui peut être accepté par le Dieu de Jésus-Christ. Amen.